la parole de Dieu, s'il vous plaît, dans l'épître de Paul aux Galates. Nous sommes toujours dans le chapitre 5. La lecture que je vais faire aujourd'hui, je vais reprendre à partir du verset 16 et nous allons lire jusqu'au verset 26, mais on se centrera sur le verset 22 et 24. Donc la parole de Dieu dit ainsi, Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Je voudrais, s'il vous plaît, faire une parole de prière avec vous. Vraiment, j'ai besoin de la grâce de Dieu aujourd'hui. Notre Père, notre Dieu, merci pour, Seigneur, ces chants que nous avons chantés. Merci pour le privilège que nous avons d'être ton peuple et de pouvoir te louer, Seigneur. Seigneur, viens maintenant par ta parole, Seigneur, viens par ton esprit convaincre nos cœurs de la vérité. Nous transformer, Seigneur, donne-nous du zèle pour toi aujourd'hui. Pour la gloire de ton nom, je te demande ces choses, Seigneur. Fais au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Que ce soit évident, Seigneur, que c'est toi qui es en train de le faire, que les hommes ne peuvent rien, que c'est toi qui es fort, que c'est toi qui es grand, que c'est toi qui sauve, Seigneur. Fais-le pour la gloire de ton nom. Amen. Je pense que tous ici, on connaît l'histoire de Peter Pan, vous vous souvenez? L'histoire de Peter Pan. C'est vraiment un dessin animé, une histoire que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, plus petit. J'ai vu ce film et ce dessin animé plusieurs fois. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de Peter Pan, mais qu'est-ce que c'est l'histoire de Peter Pan? Eh bien, c'est un jeune homme qui vit dans le monde... non? Le monde imaginaire, exactement. Il vit dans le monde imaginaire et le dessin animé commence par Peter Pan qui rentre dans la chambre. Il vient dans ce monde, dans notre monde, qui rentre dans la chambre de petit enfant qui habite à Londres pour recoudre son ombre, parce que son ombre s'échappe de lui. Et finalement, après des événements, on voit qu'il va convaincre Wendy et ses frères de venir avec lui dans le monde imaginaire. Mais dans ce monde imaginaire, il y a quelque chose de particulier. Qu'est-ce que c'est qui est particulier? C'est que les enfants ne grandissent pas. C'est ça qui est particulier dans le monde où Peter Pan et ses amis habitent. On ne grandit pas, donc on reste toujours enfant et c'est quelque chose de bien, on va dire, dans ce monde-là. Mais est-ce que c'est la réalité, ça? Est-ce que dans notre monde, c'est quelque chose de bien que les hommes ou les femmes ne grandissent pas? Non. C'est pas normal si on grandit pas dans notre monde. Il nous faut grandir. Eh bien, c'est de ce que je voudrais vous parler aujourd'hui. Notre texte, où nous sommes parvenus dans l'Épître aux Galates, va nous parler de la croissance spirituelle. Des fois, on emploie pour parler de la croissance spirituelle de la sanctification. Je pense que sanctification est un mot que vous connaissez plus que croissance spirituelle. Donc, qu'est-ce que c'est la sanctification? C'est grandir. La sanctification, c'est grandir. Mais qu'est-ce que c'est grandir? Eh bien, grandir, c'est porter du fruit. C'est ça dans les Écritures. Grandir en sanctification, c'est aussi un synonyme de porter du fruit. Écoutez ce que Jean 15, verset 8, la Bible dit, c'est Jésus qui parle, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que Dieu sera glorifié et que réellement, comme le disait Tony tout à l'heure, on verra que vous êtes vraiment mes disciples. Ok, donc, grandir, c'est porter du fruit. Mais qu'est-ce que c'est porter du fruit? Porter du fruit, c'est pas les dons de l'esprit. C'est pas ça. Je suppose que certains d'entre vous commettent cette erreur. Moi aussi, j'ai pensé comme ça souvent. Porter du fruit, c'est prêcher l'évangile aux autres. Porter du fruit, c'est avoir des dons, c'est parler en langue, c'est prophétiser. Non. C'est pas ça, porter le fruit. Ça, ce sont les dons de l'esprit. D'accord? Le fruit de l'esprit, c'est ce qui va être notre message aujourd'hui, on va voir le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, dans la Bible, c'est le caractère chrétien. C'est ça, porter du fruit. Porter du fruit, en d'autres mots, c'est être transformé à l'image de Jésus-Christ. Donc, je résume ce que j'ai dit. Nous devons grandir. Grandir, c'est porter du fruit. Et porter du fruit, c'est être transformé en la même image que Jésus-Christ. Regardez ce que dit Romains 8, verset 29. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » Les frères, le fait que la Bible dise que Dieu nous a prédestinés à être semblables et à porter l'image de son Fils, résume le plan de Dieu dans le salut. Dieu nous a sauvés pour qu'au final de ce salut, quand Dieu terminera ce salut, à la glorification, on ressemble à Jésus. On soit comme Jésus. Dieu nous a sauvés pour que nous soyons saints. C'est ça être comme Jésus, c'est être saint, c'est être différent. Et je crois que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous avons oublié cette vérité primaire dans l'évangile. Dieu veut notre sainteté. Dieu ne veut pas seulement que tu sois un grand théologien. Dieu veut ta sainteté. Il est extrêmement préoccupé pour ta sainteté. Et si Dieu veut ta sainteté, si Dieu considère que cela est très important, eh bien cela devrait l'être pour toi aussi. Nous devrions être des personnes préoccupées, zélées, pour la sainteté. Et quand je parle de sainteté, je parle bien sûr de nous séparer du péché. C'est de ça que je suis en train de parler. Et on va voir d'autres choses aussi. Mais considère cette question. Depuis que tu connais les doctrines de la grâce, est-ce que tu t'attaches aux détails de la sainteté? Ou la sainteté pour toi c'est quelque chose en gros? Je suis sauvé par grâce. Je veux être saint, mais de manière générale. Ou est-ce que tu es quelqu'un qui voit la sainteté et qui désire même les détails de la sainteté? Ces petits détails de ma vie me gênent. Je veux les changer. Est-ce que tu es préoccupé par la sainteté? Réellement, je te pose cette question. C'est une question importante à laquelle tu dois répondre aujourd'hui. Et j'espère vous enseigner. Mon but aujourd'hui, vraiment, les frères, c'est que nous soyons zélés pour la sainteté. J'aimerais qu'on parle de nous comme des personnes qui abusent. Eux, ils abusent. Ils veulent tellement être saints que vraiment, non, c'est pas ça la religion. Vous êtes trop radical. Eh bien, ça serait bien qu'on parle de nous comme des personnes radicales. Être réformé, les frères, être baptiste réformé, protestant, c'est être zélé pour la sainteté. Vous savez que les premiers baptistes réformés ont été les puritains. Vous savez pourquoi on les appelle les puritains? Pourquoi on les appelle les puritains? Parce qu'ils voulaient revenir à la pureté de l'évangile, de la sainteté. Ils étaient très minutieux. C'était des gens qui étaient connus pour leur minutie, leur application dans tous les détails de la vie chrétienne. Comment ils se séparaient du péché et essayaient de cultiver dans leur vie les fruits de l'esprit. C'est ça être réformé. Être réformé, c'est pas vivre tranquille dans son péché. Sauver, toujours sauver, c'est Dieu qui fait tout. C'est pas ça. C'est tout le contraire. C'est ce que dit Paul au verset 13. Souvenez-vous que le contexte de cette épître, à ce moment-là de l'épître, Paul a changé. Jusqu'à maintenant, il était en train de nous enseigner la doctrine, la doctrine, la doctrine. Vers chapitre 5, il change. Et maintenant, on passe à des choses plus pratiques. Ça, c'est la doctrine, c'est la vérité de ce que Dieu a fait pour vous. En conséquence de ça, voici comment vous devez vivre. Verset 13, du chapitre 5. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Nous sommes libres en Christ, justifiés par la foi. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous vous-même par amour, serviteurs les uns des autres. Je l'avais dit déjà quand j'avais prêché ce texte, que c'est presque paradoxal ce que Paul fait ici. Nous sommes libres, et en même temps il emploie une parole dans le même passage qui nous dit nous sommes esclaves, doulos. Frères, nous sommes libres en Christ, mais nous sommes esclaves de l'amour et de la vérité. Nous sommes libres en Christ, mais pas pour pécher. Mais nous sommes esclaves maintenant de la sainteté et de la justice. Je vais vous lire deux textes qui prouvent ce que Dieu désire pour vous ou pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui? Et je vais te montrer que la Bible enseigne que ce que Dieu veut depuis qu'il t'a sauvé, c'est que tu sois saint. Dieu veut que tu sois saint. Écoute, c'est pour cela, Colossiens 1:9, ne cherchez pas, je vais vous le lire, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Paul ici, quand il parle dans le verset 10, que je prie Dieu pour que vous sachiez, regardez comment fonctionne la vie chrétienne, d'abord on doit savoir, et ensuite, cette connaissance doit transformer notre cœur pour qu'il porte du fruit. Bien sûr que sans savoir la volonté de Dieu, on ne peut pas vivre une vie de sainteté. Mais Paul dit, je prie pour que vous sachiez et que cette connaissance que vous avez transforme vos vies en portant du fruit. 1 Thessaloniciens chapitre 4, écoutez bien, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. C'est quoi la vie chrétienne? C'est plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Les paroles sont fortes ici. Nous vous conjurons. Nous vous engageons à ça avec un jurement, avec un serment, de marcher à cet égard, plaire à Dieu, de progrès en progrès. Verset 2, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ne te trompe pas. Écoute, ne te trompe pas. Sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. sans un désir permanent et croissant de sainteté, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. C'est ce que dit notre texte au verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Voici comment Paul résume la vie chrétienne. Ceux qui sont à Jésus-Christ, comment est-ce qu'on peut savoir qui appartient à Jésus-Christ? Qui sont ceux qui sont à Jésus-Christ? C'est ceux qui ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Ceux qui ne crucifient pas la chair avec ses désirs et ses passions, mais qui disent « moi je crois, moi je sais tout, moi je comprends bien la vérité », mais que dans leur vie il n'y a pas un désir croissant, réel, minutieux pour la sainteté, peu importe ce qu'ils disent de leur bouche, Paul dit dans ce passage qu'on reconnaît les vrais chrétiens parce qu'ils sont en train de crucifier leur chair et leur passion chaque jour. Ils ne se complaisent pas. Écoute, ils n'excusent pas. Ne mettent pas la faute sur cela ou cela. Voilà pourquoi je n'arrive pas à avancer dans la vie chrétienne. C'est parce que ça, c'est comme ça. Si je suis pas en train de faire de grands progrès dans ma vie de sanctification, c'est à cause d'eux. Non. Ce sont des hommes et des femmes radicales avec leurs péchés. Radicales dans leur soif de sainteté. Radicales. Est-ce que c'est ce qui te caractérise à toi? C'est ça qui te caractérise? Une vie radicale en ce qui concerne le péché et la sainteté? Ce sont des personnes zélées pour être toujours plus saintes dans leur manière de vivre à la gloire de Dieu. Vous vous rendez compte, mes frères, que la Bible dit que même manger et boire doivent être faits à la gloire de Dieu? Manger et boire. Tu me diras, mais comment je peux être sain quand je mange et je bois? Oui, tu devrais être sain quand tu manges et tu bois, parce que ce que tu fais là, tu devrais le faire à la gloire de Dieu. Maintenant, comment le faire? Comment être une personne qui recherche la sanctification? Et c'est important pour nous, pour ne pas tomber dans le légalisme. D'accord? Parce que chercher la sanctification, il y a une manière de chercher la sanctification qui n'est pas une manière légaliste, qui n'est pas une manière d'être sauvé par les œuvres. Il y a une bonne manière de désirer la sanctification, d'être ardent pour la sanctification. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous à partir de ce dimanche. Peut-être que nous allons être pendant 2 ou 3 dimanches sur ce texte, mais voici de quoi on va parler. À partir de ce dimanche, on va parler de la vie de sanctification et comment bien le faire. Comment bien le faire. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Qu'est-ce que la véritable sanctification? Et j'espère que vous allez comprendre que ceci est une œuvre de Dieu. C'est la première chose que je veux vous enseigner au sujet de la sanctification et que notre texte enseigne. La sanctification est une grâce. C'est pas on est sauvé par grâce. Après, on vit par les œuvres, et après, on est sauvé par grâce. C'est faux. On est sauvé par grâce, on est justifié par grâce, on est sanctifié par grâce, on est glorifié par grâce. Du début à la fin, c'est la grâce de Dieu et son amour pour les pécheurs. D'accord? Du début à la fin. Ok. Mon premier point, c'est comment cela fonctionne. Comment la sanctification fonctionne. Lisez avec moi le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Même si Paul, ici, dans notre passage, est en train de parler du fruit, ici, qu'il y a dans notre vie chrétienne, c'est bien de la doctrine de la sanctification qu'il est en train de parler. La Bible emploie plusieurs manières de parler de ça. Elle emploie la sanctification, elle emploie la régénération. Vous savez, quand on dit nous avons été régénérés, on est en train de parler de la nouvelle naissance, mais Dieu continue à régénérer nos vies. Être régénéré, c'est être transformé. Il y a des choses dans nos vies qui sont en train d'être régénérées. qui sont en train d'être chargés. Ok? Donc, sanctification, portée du fruit, régénération, transformation, renouvellement de l'esprit, toutes ces choses sont en train de parler de la même chose, de la sanctification progressive. Et permettez-moi de faire quelques remarques générales à ce sujet. Ok. La première chose que je voudrais dire au sujet de la sanctification, c'est que cela nous concerne tous ici. Cela peut-être tu te dis pourquoi il dit ça? Parce que tu pourrais avoir le risque de penser, oui, mais être saint, c'est pour les autres. C'est pour ceux qui sont très spirituels. Mais pour moi, petit chrétien ou petite chrétienne, si personne ne fait attention à moi, quelle différence y a-t-il entre que je sois une personne qui veut la sanctification, personne ne le verra. Non. Ne pense pas comme ça. Dieu te voit. Donc la première chose, c'est que la sanctification ne t'exclut pas aujourd'hui. Tout ce que je vais dire, c'est pour toi. Tout. La sanctification nous concerne tous. Deuxièmement, comme je l'ai dit, c'est un fruit, d'accord? Et je suis en dette aujourd'hui avec David Bonne, parce que j'ai écouté cette semaine une prédication qui m'a beaucoup aidé à ce sujet. Et la sanctification, dans notre passage, c'est un fruit. Vous êtes d'accord? Le fruit de l'esprit. Ok. Quand on plante un arbre fruitier dans son jardin, à quoi il sert? Apporter du fruit. Mais ce fruit, après, qu'est-ce qu'on en fait? Il alimente. D'accord? C'est-à-dire que le fruit doit servir pour les autres aussi. D'accord? Ok. La sanctification, d'accord? Ce n'est pas quelque chose pour toi. Dans quel sens je dis ça? Vous savez qu'il y a une philosophie et le monde prône beaucoup ça. Il faut que nous soyons des hommes accomplis. Recherche ton bien-être personnel. Et les gens essayent de se transformer, d'être des meilleures personnes pour eux, pour se sentir mieux eux, d'accord? Tandis que la sanctification, tu ne dois pas la rechercher principalement pour toi, c'est quelque chose que tu dois rechercher pour Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La sanctification doit toujours avoir comme but de glorifier Dieu. Pourquoi je dois chercher avec acharnement à être un homme saint, une femme sainte? Parce que je veux que Dieu soit glorifié. D'accord? La sanctification recherche la gloire de Dieu. Et deuxièmement, la sanctification cherche à bénir les autres. C'est un fruit que nous sommes en train de donner. Les autres en peuvent en manger, peuvent en jouir de ce fruit. Donc, quand tu cherches la sanctification, ne cherche pas à être une personne meilleure. Je vais être plus sain pour que les autres disent. Faux. Je veux être plus sain pour que Dieu soit glorifié. Et je veux être plus sain parce que je veux être une bénédiction dans ma famille. Je veux être une bénédiction dans mon église. Je veux être une bénédiction dans le monde. Ok? Très bien. Troisième remarque au sujet de la sanctification, c'est le fruit de l'esprit. Lui seul peut le produire. Regardez ce que le verset 19 dit, parce que Paul met en contraste ici, on l'a vu le dimanche dernier, les œuvres de la chair, ça, c'est nous qu'on le produit, c'est vrai, on l'a vu, d'où elles sortent les œuvres de la chair, l'impudicité, la magie, toutes ces choses qu'on a vues, tous ces péchés qu'on a vus, d'où elles sortent? Ils sortent de notre nature corrompue. Je pensais à ça. Qui enseigne à nos enfants à mentir? Est-ce que toi, tu t'es assis un jour avec ton enfant et tu as dit, voilà, mon fils, voilà comment tu dois mentir. Quand je te demande, est-ce que tu as fait ça, tu diras le contraire, oh, tu n'enseignes pas à mentir. Pas vrai? Personne n'enseigne à mentir à ses enfants. Pourquoi ils mentent? Pourquoi quand tu prends un petit de 3 ans, à qui tu dis, fais attention, ne touche pas le pot de Nutella jusqu'à ce que je revienne. Tu t'en vas, tu reviens, il est tout plein de Nutella et quand tu rentres, tu as dit, tu as touché le pot de Nutella, il te dit non. Qui lui a appris? Personne. Pourquoi? Parce que ça vient de lui. Les fruits de la chair, on n'a rien à faire pour qu'ils soient là. Ils sont automatiquement produits par notre chair. D'accord? Or, les œuvres de la chair, les, au pluriel, les œuvres de la chair, c'est nous qu'on les produit. Mais au verset 22, mais le fruit de l'esprit. Et ici, l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. C'est esprit avec E majuscule. Mais le fruit de l'esprit. Les manifestations de la chair, c'est nous. Le fruit de l'esprit vient de l'esprit de Dieu et produit par lui à sa gloire. C'est pas toi qui produis le fruit. Tu ne peux pas produire le fruit. Tu es dépendant totalement de Dieu pour que ce fruit puisse être présent dans ta vie. Ça va? Ok. Le fruit est composé de 9 aspects. Il y a 9 facettes, on va dire. Mais si vous regardez bien notre texte, il n'y a pas 9 fruits. Il n'y a pas 9 fruits. C'est le fruit au singulier. Il y a un seul fruit qui est manifesté sous 9 facettes. Ok. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la dernière chose que je veux dire au sujet de la sanctification. D'accord? Chose générale. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il y a un fruit et 9 facettes? Cela veut dire que tu ne peux pas prétendre à une facette du fruit sans avoir les autres, puisque c'est le même fruit. Si tu as le fruit de l'esprit dans ta vie, alors tu vas avoir l'amour, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, la patience. Tu ne peux pas dire, oui mais moi, je veux que l'amour, la patience, je n'en veux pas. Ou je veux être doux, ou une femme qui est douce, et pas une femme qui est patiente, par exemple. Vous comprenez ce que je viens de dire? Le fruit, si vous êtes chrétien, et que vous avez le fruit de l'esprit en votre vie, toutes les facettes qu'on va voir doivent être présentes. Bien sûr que chacun d'entre nous, on va devoir travailler plus ou moins dans des aspects de notre vie, parce que par nature, des fois, et ça c'est important de le faire, par nature, vous savez que par nature, même des gens qui sont inconvertis sont patients. Mais c'est pas le fruit de l'esprit, ça. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais les personnes qui sont pleines de douceur, c'est vrai, il y a des personnes douces qui n'ont pas Christ. Est-ce que c'est le fruit de l'esprit? Non. Parce que cette douceur n'est pas à la gloire de Dieu. D'accord? Quand il y a le fruit de l'esprit, les fruits sont pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La sanctification, on doit la chercher pour la gloire de Dieu. D'accord? Ok. Donc, quand il y a le fruit de l'esprit présent dans la vie d'un chrétien, ce fruit se manifeste par 9 facettes. Toutes doivent être présentes. Ok. Il y a 2 pôles dans la sanctification. 2 pôles. On pourrait parler de 2 colonnes importantes. Qu'est-ce que c'est la sanctification? Eh bien, Paul a mis en contraste ici les œuvres de la chair. La première chose qu'il faut faire dans la sanctification, qu'est-ce que c'est? C'est nous éloigner de tous ces péchés qu'on a parlé dimanche. Vous êtes d'accord avec moi? Chercher la sanctification, c'est s'éloigner de la débauche. Chercher la sanctification, c'est s'éloigner de l'impureté. Chercher la sanctification, c'est s'éloigner de tous les péchés que la Bible condamne. C'est ça. C'est s'écarter des péchés. Mais c'est pas que ça, la sanctification. Si la sanctification s'arrête juste à ne touche pas, ne prends pas, éloigne-toi du mal, c'est une sanctification légaliste qui ne fait rien du tout. Parce que la sanctification, c'est s'éloigner du péché, ok? Ça, c'est important que vous compreniez ça. S'éloigner du péché, se couper du péché et commencer à prendre d'autres choses dans ma vie. Commencer à pratiquer d'autres choses. Par exemple, je m'éloigne de l'impureté, de la débauche, et je commence à devenir quelqu'un de sain et de pur. J'arrête d'être impatient et colérique pour être une personne aimante, remplie de bonté. Je cherche ça maintenant. Je ne suis plus colérique, je veux aimer. Et j'aime. je fais tous mes efforts pour que ma vie soit caractérisée par un homme, une femme, qui ça se voit que j'aime les autres. D'accord? C'est comme ça que la Bible parle, dépouillez-vous, une autre image, dépouillez-vous et revêtez-vous. Vous voyez? C'est s'enlever un vêtement sale, qui est le vieil homme, et c'est revêtir l'homme nouveau en Christ. Ok. Donc, c'est éviter le péché, et c'est cultiver et rechercher les choses que Dieu commande. Je ne suis pas saint si juste je m'abstiens de certaines choses mauvaises. Attention les frères, parce que je crois qu'on a ça comme culture dans notre tête au sujet de l'évangile. Je suis saint parce que je ne fais pas ça. Je suis saint parce que je ne fais pas ça. Si tu, par exemple, si tu arrêtes de faire certaines choses mais que ton cœur est un cœur rempli d'amertume, c'est vrai que peut-être tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne vas pas en boîte, tu fais attention où tu vas, mais ton cœur est plein d'amertume. Tu crois vraiment que tu es saint? Non, pas du tout. Ça, c'est la sainteté des hypocrites. Ça, c'est la sainteté des pharisiens et des scribes. Que le Seigneur dira, hypocrite que vous êtes blanc à l'extérieur, mais au-dedans, vous êtes rempli d'impureté. Non, on n'en veut pas de cette sanctification, on n'en veut pas. On la rejette. D'accord? La vraie sanctification, c'est dedans. C'est dedans, et Dieu le voit. C'est pour cette raison que tu dois chercher à être saint. Pas pour les autres, pour Dieu. Pour Dieu. Sois saint pour Dieu. Ok. Nous allons voir que le fruit, ce n'est pas quelque chose que je fais, mais plutôt quelque chose que je deviens. Je l'ai noté en rouge, phrase, elle te marque. Qu'est-ce que c'est porter du fruit, être sain? C'est pas quelque chose que tu fais. Je vais faire ça. Non, c'est quelque chose que tu dois devenir. Je dois devenir comme ça. Je dois être une femme caractérisée par la patience, la bonté, l'amour. Un homme rempli de patience, de maîtrise de soi. C'est ce que je dois devenir. Ce n'est pas quelque chose que je dois faire. C'est ce que je dois devenir. Ok? Ok. Comment le faire, les frères? Le texte nous l'enseigne. On en a déjà parlé, mais le texte nous l'enseigne. La première chose que nous devons faire pour pouvoir porter du fruit, le verset 18, lisez, regardez vos Bibles, c'est se laisser conduire par l'Esprit. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ici, la parole conduit, en grec, ago, veut dire mener, conduire, amener avec soi. Écoutez bien, c'est un terme qui était employé pour parler d'un homme qui était en train de travailler avec un animal attaché. C'était pas l'animal qui menait, c'était l'homme qui menait. D'accord? Ok. Ce terme est aussi employé pour le vent qui pousse un bateau. Est-ce que c'est le bateau tout seul qui bouge? Il n'y a pas de vent, est-ce qu'il va bouger le bateau? Non. C'est le vent, pardon, qui pousse le bateau. Et la dernière image que cette parole ago est importante que je cite, c'est que ce terme était employé pour parler d'un prisonnier qui était amené devant un magistrat. Comment est-ce qu'un prisonnier allait devant le magistrat pour être condamné? Est-ce qu'il allait de son plein gré? Non, il était amené. Ok? C'est ce que Paul est en train de dire au sujet de choses importantes pour savoir comment est-ce que nous devons être sanctifiés. Si vous êtes conduit par l'Esprit. Si l'Esprit est en train de vous conduire, c'est lui qui est en train de vous conduire. J'avais dit la dernière fois quand j'ai prêché ce texte que le Verbe reçoit l'action. C'est au mode passif. Le Verbe reçoit l'action. Je suis en train de me laisser conduire. D'accord? Je ne me conduis pas. C'est lui qui conduit. Donc cela nous parle que c'est Dieu qui doit le faire. C'est Dieu qui doit le faire. Et je vais vous montrer des textes. Comment est-ce que la Bible emploie ce mot, ago? Regardez, Matthieu 10, verset 18. Jésus, en parlant à ses disciples, dira, « Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. » Vous serez menés, ago. Vous serez amenés par force. Et nous avons un très bon exemple de cela dans Luc 4, verset 1 aussi. La Bible dit au sujet de Jésus, « Jésus rempli du Saint-Esprit, voyez, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit, ago, conduit, poussé, certaines traditions disent poussé par l'Esprit, ici c'est ago, conduit par l'Esprit dans le désert. Est-ce que Jésus est allé au désert parce qu'il voulait? Oui, mais le texte révèle qu'il est allé au désert parce que l'Esprit l'a poussé. C'est l'Esprit qui l'a conduit au désert. Donc c'est quelque chose que nous subissons. Écoute, c'est quelque chose que tu subis. C'est pas quelque chose que tu fais. Tu le subis en partie. Et tu vas comprendre pourquoi je dis en partie. La première chose, donc, c'est un ordre. Pardon, c'est se laisser conduire. La deuxième chose, c'est l'ordre de marcher. Nous devons nous laisser conduire, mais cela ne veut pas dire que dans la sanctification, on ne fait rien. Et là, c'est où se complique la sagesse de Dieu. Il y a des choses, des fois, vraiment, c'est très difficile dans les Écritures à expliquer. Mais Dieu, dans la sanctification, nous met deux choses qui apparemment sont contradictoires. Si ce que je viens de dire est vrai, c'est quelque chose qu'on subit, comment est-ce possible qu'en même temps Dieu nous donne l'ordre de marcher? C'est qui le fait? Dieu ou moi? Oui. C'est Dieu et toi. Verset 16. Et verset 25 aussi. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ici, la parole marcher est traduite du grec peripateo, qui traduit le mot marcher. D'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 25, dans nos Bibles françaises, on a encore la parole marcher, mais c'est pas le même mot en grec que pour l'emploi. Donc, je relis verset 16. Je dis donc, marchez dans l'esprit, selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons, nous avons encore ici le verbe marcher, aussi selon l'Esprit, mais ici, le mot marcher, ce n'est plus peripateo, c'est socio. Et qu'est-ce que veut dire ce mot? Ça veut dire avancer en rang, comme marche, comme la marche d'un soldat. C'est de ce mot que vient la parole ou l'expression se mettre en rang. Vous avez vu se mettre en rang? Qu'est-ce que ça veut dire se mettre en rang? Marcher dans une ligne. C'est de ce mot que vient cette expression. Se mettre en rang, aller en ordre, métaphoriquement, aller en prospérant, bien se conduire, marcher, diriger sa vie. C'est ce que veut dire ce mot. Paul dit, c'est quelque chose qu'on subit, mais c'est quelque chose aussi qu'on fait. Par obéissance, on se range. Quand Dieu nous dit, Joséito, c'est ça que je veux de toi, la sanctification, c'est de me mettre en rang. C'est de dire, d'accord Seigneur, j'obéis. C'est pas, je vais pas attendre pour être saint, je vais pas attendre que Dieu me prenne comme un robot et me conduise à la sainteté. On est en train de dire que c'est lui qui le produit, mais comment est-ce qu'il le produit? Il le fait en nous donnant la force, en nous poussant avec douceur, bonté, je ne sais pas comment Dieu fait ça, mais Dieu fait ça. Il incline les cœurs des hommes. C'est eux qui le font, mais c'est lui qui l'a incliné. Ok? Donc la sanctification exige une disposition. Écoute, la sanctification exige une disposition, de l'obéissance, de la détermination, de l'ordre, de la discipline. Tu pourras jamais, jamais, jamais être une personne sainte si tu n'es pas en train d'être discipliné, si tu n'es pas obéissant. Ok, nous avons vu comment cela fonctionne. Il y a certainement d'autres choses à dire, mais j'ai essayé de vous dire déjà certaines choses à ce sujet. Mon deuxième point, c'est qu'est-ce qu'est la sanctification dans notre passage? Comment est-ce que Paul l'enseigne ici? Basiquement, comme nous l'avons dit, la sanctification, c'est transformée à l'image de Jésus-Christ. Et ici, nous ne parlons pas d'une image physique. Quand Dieu dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a prédestinés afin d'être semblables à l'image de son Fils, cela ne veut pas dire qu'un jour on va ressembler physiquement à Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Ça veut dire que Dieu est en train de nous transformer pour que nous portions l'image morale et spirituelle de Jésus. Sa moralité. En d'autres mots, Dieu est en train de transformer ta vie pour que tu aimes ce que Jésus aimait et pour que tu détestes ce que Jésus détestait. Et ça, c'est un bon exercice à faire, ça. Lisez les évangiles avec un stylo et à chaque fois que vous voyez quelque chose que Jésus aime, notez-le. Tu aimes ça, Seigneur? Alors moi aussi, je dois l'aimer. Et quand vous voyez quelque chose que Jésus n'aime pas, notez-le. Et dites, Seigneur, si toi tu n'aimes pas ça, moi aussi je ne veux pas l'aimer. Parce que c'est ça la sanctification. C'est être transformé à l'image de Jésus-Christ. C'est pour cela que Paul décrit le fruit comme des vertus morales. Vous avez vu? Qu'est-ce que c'est le fruit? C'est l'amour, la paix. C'est des vertus morales et spirituelles. C'est des choses qui caractérisent notre cœur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites à ce sujet. J'ai lu beaucoup de choses cette semaine. Parce que certains hommes arrangent, il y a 9 fruits, d'accord? Et certains hommes disent qu'il y a un trio, 3-3-3. 3 pour Dieu, 3 pour moi, 3 pour mes semblables. Il y a d'autres listes qui classifient les fruits d'une autre manière. Je ne sais pas, j'arrive pas à m'aligner avec une seule idée. D'accord? Ce qui est sûr, c'est que, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va traiter les fruits 3 par 3. D'accord? Donc, aujourd'hui, à partir de maintenant, on va voir 3 des manifestations de ce fruit de l'esprit, et dimanche prochain, ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Ok. Est-ce que ça va? Ok. Bon, je vais boire un coup, et ensuite, on attaque le premier fruit. La première manifestation du fruit de l'esprit dans notre passage, c'est l'amour. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et vraiment, le frère, s'il y a une qualité que nous devrions rechercher de manière acharnée dans notre vie, c'est être des personnes remplies d'amour. L'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. La Bible ne dit pas que Dieu a de l'amour. Dieu est amour. Son essence, c'est l'amour. Écoutez ce que Paul dira dans Colossiens 3, verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, par-dessus toutes les choses de la vie chrétienne, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Si on pourrait dire qu'est-ce que c'est la perfection, c'est être une personne remplie d'amour. C'est ça la perfection, c'est Christ. C'est Christ. Qu'est-ce qui aurait caractérisé? Le jour où on va rencontrer Jésus, ce qui va le plus nous étonner, nous marquer, nous époustoufler de lui, c'est que c'est une personne remplie d'amour. Remplie. Maintenant, en français, nous sommes pauvres. La langue française est très pauvre en comparaison avec le grec, qui est la langue qui a été utilisée pour écrire le Nouveau Testament. Nous avons un seul mot pour décrire l'amour en français, n'est-ce pas? Et ce mot, amour, on l'utilise pour tout. J'aime ma voiture, mais j'aime aussi ma fille. Tu vois, c'est le même mot pour dire j'aime ma voiture et j'aime ma fille. Mais évidemment, je n'aime pas ma voiture de la même manière que j'aime ma fille. Mais pourtant, c'est le même mot. On est pauvre en français, pas le grec. Le grec a 3 mots pour nous parler de différents types d'amour. Ok? Ok. Le premier mot que le grec emploie pour nous parler de l'amour, c'est l'amour eros. L'amour eros. Et qu'est-ce que c'est l'amour eros? C'est l'amour éros, c'est l'amour du désir. C'est l'amour de l'attirance. Je t'aime parce que je vois en toi quelque chose qui m'attire ou me plaît. D'accord? Par exemple, j'aime ma voiture parce qu'elle me plaît. C'est l'amour éros. Je suis attiré vers quelque chose parce que je ressens une attirance physique et il y a de la beauté dans cette chose, donc je vais vers cet amour. Je manifeste cet amour. Ok. Le deuxième mot que la Bible emploie pour parler de l'amour, c'est philéo. C'est le mot philéo. Et le mot philéo nous parle d'un amour de l'amitié. C'est plus un amour qui est lié uniquement à l'aspect physique et matériel de la chose, mais c'est plus un amour d'amitié, d'accord, qui nous lie avec des amis. Ok, ça serait un peu c'est difficile à définir l'amour, ouais. Mais voilà comment la Bible parle de l'amour. Et le troisième mot, qui est celui qui nous intéresse, parce que c'est celui que Paul emploie dans notre texte, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et ici, le mot, c'est agapé. Ok, j'ai déjà épuisé mon temps, les frères. Ok. Qu'est-ce que veut dire l'amour agape? Je ne veux pas que tu perdes ça. L'amour agape, c'est un amour qui n'est pas caractérisé par « je veux ». L'amour agape, ce n'est pas un amour qui veut quelque chose pour soi, mais c'est un amour qui donne. C'est ça l'amour agape. L'amour agape cherche le bien de l'autre avant soi. Je t'aime parce que je veux ton bien. Je veux t'aimer, toi, parce que je veux que tu sois bien, parce que je veux que tu prospères. Même si cela me coûte quelque chose à moi. Même si cela implique que je souffre. Même si je ne gagne rien dans l'affaire, je t'aime. Parce que je suis en train de rechercher le bien de l'autre. D'accord? Et cet amour, le frère, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour qui vient d'en haut. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Parce qu'il a aimé le monde, il a donné. Vous voyez? Dieu n'a pas cherché un profit quand il a donné son fils. Dites-moi quel profit il y avait au fait que Dieu donne son fils. Est-ce que Dieu a donné son fils pour en retirer un bénéfice de nous? Nous étions misérables. Qu'est-ce qu'on pouvait donner à Dieu? Rien du tout. Mais il a donné. Pourquoi? Parce qu'il cherchait notre bien. Parce qu'il nous aimait. Je vais vous donner un autre texte. Pour vous les hommes. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ici, encore une fois, nous avons un très bon exemple de qu'est-ce que c'est l'amour agape. Marie, aimez vos femmes, non pas parce que vous trouvez en elles le retour de votre amour, non pas parce que vous voulez que cette femme vous serve, vous voulez que cette femme soit soumise à vous, non. Marie, aimez vos femmes sans aucun bénéfice, de manière sacrificielle. Comment? De la manière comment Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Jésus a tout perdu pour son Église. Il a tout perdu. Il s'est dépouillé de sa gloire, il est venu mourir sur un bois maudit, il est descendu jusqu'au plus bas. Pourquoi il a fait ça? Quel bénéfice il avait encore une fois? Aucun. Il l'a fait parce qu'il voulait bénir son épouse. Afin de la sanctifier et de la présenter devant Dieu, une épouse sainte, magnifique, sans rides. C'est comme ça que la Bible nous dit d'aimer nos épouses. Nous devons les aimer, non pas en vertu des qualités qu'on voit, mais pour les rendre belles. Notre amour doit couvrir leurs fautes. Notre amour pour elles doit pardonner leurs fautes et chercher son bien. Quand je vois mon épouse qui est impatiente avec moi, qui est méchante avec moi, c'est pas grave, je continue à l'aimer. Jusqu'à ce que cet amour puisse transformer son cœur et dire « Mon mari m'aime quand même quand je suis comme ça. » Et il n'y a pas de plus grand, écoutez bien, il n'y a pas de plus grande puissance les frères, il n'y a pas de plus grande puissance pour transformer un cœur que l'amour. Qu'est-ce qui t'a changé, toi, quand tu as compris l'évangile? C'est que tu as compris que Dieu t'aimait. Ça a défait toutes les barrières, tous les préjugés, tous les pensées que tu avais sur Dieu. Quand tu as compris que Dieu t'aimait, ton cœur a explosé. Comment c'est possible que tu m'aimes? Eh bien, c'est ce que fait l'amour avec les autres. Amour agape. Je vous pose une question, les frères, une question très importante. Combien es-tu prêt à perdre pour les autres? Combien es-tu prêt à perdre pour les autres? Pour ta famille, pour ta femme, tes enfants, pour ton église. Tu aimes l'église? Eh bien, aimer l'église au travers du fruit de l'esprit, ce n'est pas aimer l'église parce que tu es en train de retirer un bénéfice de cette église. Mais c'est aimer l'église parce que tu veux l'avancement. Et même si cela te coûte quelque chose, tu le donnes. Ça peut te coûter ton temps, ton énergie, ton argent. Oui, ton argent. C'est pas normal que tu viennes à l'église, tu prétends aimer l'église et tu n'aides pas l'église avec de l'argent. Comment veux-tu que le royaume... Comment vous pensez qu'on a tout ça? Ça tombe du ciel? Non, c'est parce que les frères sont en train de donner. Le royaume de Dieu n'avance pas par magie. Le royaume de Dieu avance avec notre argent. Sais-tu que c'est le Seigneur qui te donne l'énergie pour te lever le matin et aller travailler? Tu sais que c'est le Seigneur qui t'a donné ton travail? Tu le sais, ça? Il te bénit pour que tu sois à ton tour un moyen de bénédiction. Et un jour, les frères, vous rendrez compte, écoutez bien, de l'administration de votre argent. Le Seigneur vous dira, qu'est-ce que tu as fait avec tout ce que je t'ai donné? Tu n'es qu'un simple administrateur. Tu n'es pas propriétaire. Tu es administrateur. Tu gères. Tu gères ce que Dieu te donne. C'est pas à toi. Demain, Anthony, il me donne 2000 euros, il me dit, Christo, gère-le. Voilà. Fais les choses bien avec ces 2000 euros. Je vais faire les choses avec ces 2000 euros, pas en disant, c'est mon argent, je vais m'en aller en vacances avec mes enfants, ma femme. Si c'est mon argent, je peux faire ça, parce que c'est le mien. Mais c'est pas le mien, c'est celui de Tony. Donc, quand Tony va revenir, il va me dire, qu'est-ce que tu as fait aussi avec les 2000 euros que je t'ai donné? Eh ben, je suis parti en Espagne. Comment? Pourquoi tu as fait ça? Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est ce que Dieu fait avec nous. Un jour, il va nous demander des comptes pour ce qu'on a fait. Je repose la question. Tu aimes l'église? Qu'est-ce que c'est en train de te coûter? Qu'est-ce que tu es en train de sacrifier? Pour ta femme, tes enfants, ton église, ta famille, ainsi de suite. Pour les personnes que tu prétends aimer. Si tu n'es pas en train de sacrifier quelque chose, c'est parce que c'est pas l'amour agape. C'est un amour peut-être féroce. Tu es en train d'aimer parce que tu veux être aimé à ton tour ou parce que tu veux en tirer un bénéfice. Donc les frères, cherchons cet amour-là qui vient de l'esprit. Nous devons, souvenez-vous ce que je vous ai dit, j'ai passé du temps à vous parler de ça, la sanctification est quelque chose que vous devez rechercher. Vous devez vous appliquer à ça. Dieu veut ça pour vous. Ok. Comment Dieu fait grandir cet amour en nous? Comment est-ce que vous pensez que cet amour, et comment vous pouvez aller puiser de la force pour aimer de cette manière? Eh bien, l'amour de Dieu ne peut être manifesté dans notre vie que quand on a reçu l'amour de Dieu. Je vais m'expliquer. Nous aimons parce qu'on a été aimé en retour. C'est dans la mesure où je sais que Dieu m'aime et cela me nourrit. Jean dira, l'amour de Dieu, je crois, il dit, ne consiste pas en ce que nous ayons aimé Dieu les premiers, mais en ce que Dieu nous a aimés. Vous voyez comment fonctionne l'amour? L'amour fonctionne comme Dieu étant la source de cet amour, et c'est dans la mesure où je me place devant lui, je me nourris de ça. Je me nourris du fait que Dieu m'a aimé en Christ, malgré ce que je suis, qu'une fois que je suis plein, que ma vie est remplie de cette connaissance, de cet amour et de cette réalité, je me tourne vers les autres et je suis un canal pour aimer les autres. Donc, nous pouvons être et manifester cet amour dans la mesure où nous sommes en train de vivre par la foi dans l'amour de Dieu pour nous. Je ne vais pas avoir le temps de traiter la joie et la paix, je voulais le faire, mais je vais arrêter là. On continuera dimanche prochain la suite, d'accord? Qu'est-ce qu'on a vu? Dimanche prochain, on ira directement au fruit de l'esprit, mais qu'est-ce qu'on a vu? Je veux juste vous répéter ça. Dieu veut votre sanctification. C'est la volonté de Dieu. Soyez saints, les frères. Soyez minutieux. Soyez radical. Ferme, oui, mais je voulais dire intentionnel. Soyez intentionnel. N'attendez pas que ça tombe du ciel. Je parle mal. J'ai vraiment une bouche qui parle mal souvent. Mais qu'est-ce que tu veux, je suis comme ça? Non! Non, non, je ne vais plus parler mal. Je ne vais plus faire ça. J'ai un caractère qui s'emporte. Je ne veux plus être comme ça. Je vais faire attention aux petits détails. Oui, les petits détails. Fais attention aux petits détails. C'est pas grave si on te traite de pharisien. Dieu le voit pour qui tu le fais. Si tu le fais pour la gloire de Dieu, tu seras récompensé. Donc, soyons remplis, les frères. Qui c'est qui sonne? Ok. Je disais, soyez remplis de cet amour-là aussi. Il faut que nous soyons radicaux pour ça, les frères. Vraiment. Je crois que notre Église, je dis rien. Le danger de la connaissance des doctrines de la grâce, c'est que souvent cela emporte les gens de l'autre côté. Quand on ne connaît pas bien l'Évangile, on vit un salut par les œuvres un peu. D'accord? Mais quand on vient à connaître l'Évangile de la grâce de Dieu, on a tendance à partir de l'autre côté à dire « c'est pas grave ». Mais ça, c'est pas biblique, les frères. Aimer la sainteté comme on l'a recherché avant de connaître les doctrines de la grâce, on devrait le faire avec plus de force. En étant plus radical encore que ce qu'on l'était avant. Parce qu'aujourd'hui, on comprend que c'est par amour pour Dieu qu'on veut le faire. Pas pour que Dieu nous sauve. Pas parce qu'on craint d'être perdu dans l'enfer. Non. Mais je veux être saint, Seigneur, parce que je t'aime. Parce que je comprends ce que tu as fait pour moi. Et ça devrait être nous pousser à être plus radical encore qu'avant.